Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Deus, qui odierna die unigenitum tuum gentibus stella duce revelasti. Dieu qui avait aujourd'hui révélé votre Fils unique aux gentils en les guidant par une étoile. Très chers fidèles, dès les premiers siècles, l'Orient chrétien a célébré l'Épiphanie comme la manifestation du Seigneur, dans un sens d'abord très général, plutôt qu'en référence à un épisode spécifique. La fête réunissait alors l'apparition de Jésus dans le monde, sa naissance, et le début de sa vie publique par le baptême. En Occident, le premier témoignage remonte à l'année 361, en Gaule. En 380, on sait qu'en Espagne, on commémorait la visite des mages, le massacre des innocents et le miracle de Cana. Depuis que la fête est entrée dans le calendrier de l'Église de Rome sous Saint Léon le Grand en 461, la visite des mages est devenue l'épisode central de l'Épiphanie, auquel s'est ajouté un peu plus tard le thème du baptême de Jésus, et au 7e siècle, le miracle de Cana. Mais restons sur l'objet principal de cette fête, qui est la venue des mages et leur adoration de l'enfant Dieu. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite l'oraison de la messe de l'office. Deus qui odierna die unigenitum tuum gentibus te la duce revelasti. Dieu qui avait aujourd'hui révélez votre Fils unique aux gentils en les guidant par une étoile. Cette oraison est particulièrement riche et chaque mot compte. Elle est construite comme un diptyque, c'est-à-dire un tableau composé de deux volets, articulés entre eux. Sur le premier volet, l'étoile, la révélation faite aux gentils, et sur le second volet, la foi, la contemplation de Dieu. Attachons-nous d'abord à la première partie de ce tableau. Et dans cette première partie, commençons par le Verbe, qui est comme l'âme de cette première proposition. Révélasti. Vous avez révélé. Vous avez donné une révélation. Ce mot de révélation évoque l'idée de choses cachées ou voilées. Soudain mise à jour. Révéler, c'est selon l'étymologie ôter un voile, donc manifester, rendre visible, apporter une connaissance. Dans un contexte théologique, ce terme a un sens bien précis. Il s'agit de la transmission de la vérité divine aux hommes, de l'ensemble des vérités de notre foi concernant Dieu lui-même et le salut des hommes pécheurs. Ces vérités, jusqu'alors restées le secret exclusif de Dieu, nous sont communiquées par le moyen d'écrits que Dieu inspire ou par l'intermédiaire de messagers auxquels Dieu fait entendre ses oracles avec mission de les transmettre, le principal d'entre eux étant notre Seigneur Jésus-Christ. Ces connaissances doivent nous être données par Dieu. Nous ne pouvons les acquérir tout seuls, par les seules forces de notre raison. Il faut pour cela recevoir de Dieu la foi, vertu théologale qui élève notre intelligence et nous fait adhérer au message divin sans l'ombre d'un doute, avec une certitude qui dépasse toute autre certitude. C'est ça la certitude de la foi. C'est ainsi que saint Paul, le docteur des gentils, s'insinuait dans leur esprit et les portait à se soumettre. Les grands mystères, dit-il, que l'on vous découvre maintenant, ils n'ont pas été découverts dans les siècles passés. Pour moi qui suis le dernier des hommes, j'ai reçu cette grâce d'annoncer aux gentils les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ et d'éclairer tous les hommes, en leur découvrant combien est admirable l'économie du mystère caché avant tous les siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Et dans un autre endroit, toujours saint Paul, nous vous annonçons, chers frères, et nous vous découvrons, nous vous dévoilons ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais conçu, mais ce que Dieu nous a révélé par son esprit, parce que l'esprit pénètre tout, même ce qu'il y a en Dieu de plus profond et de plus caché. Il s'agit bien ici de vérités surnaturelles et divines, cachées en Dieu. Il nous faut donc une révélation surnaturelle, qui est celle de la foi, pour nous en donner la connaissance. Mais continuons sur notre raison. Unigenitum tuum, votre Fils unique. Il s'agit ici de l'objet principal de la révélation que Dieu nous fait. Car cette expression, le Fils unique, nous renvoie directement au dogme de la Trinité des personnes divines. Elle désigne en effet la seconde personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, le Fils du Père éternel, de qui, conjointement avec le Père, procède le Saint-Esprit. Cette expression nous renvoie aussi au dogme de l'incarnation. Puisque le Verbe de Dieu a pris chair, s'est incarné pour s'offrir sur l'autel de la croix en rédemption pour les hommes pécheurs. Ainsi, le dogme de la Trinité, celui de l'incarnation rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sont les dogmes les plus importants et sont contenus dans cette expression. On peut dire que tout le dogme est centré sur notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Gentibus, aux gentils, c'est-à-dire aux païens. Dans la Somme théologique, saint Thomas nous explique ce que symbolisent ceux qui se pressèrent auprès de l'enfant Jésus, les bergers qui vinrent à la crèche avant tout autre, préfigure les apôtres et les autres juifs croyants auxquels la foi au Christ fut manifestée en premier, parmi lesquels, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, il n'y eut pas beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles, ce furent de petites gens, comme les bergers. Vinrent ensuite les mages, que nous fêtons aujourd'hui, et qui symbolisent, eux, la plénitude des nations païennes à qui parvint la foi au Christ. Enfin, les justes qui accueillirent notre Seigneur au temple, le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, représentent la plénitude des Juifs qui se convertira à la fin des temps. Les gentils ont pris la place de la synagogue qui n'a pas été fidèle à sa mission. Selon ce qu'écrit saint Paul aux Romains, Israël, qui cherchait une loi de justice, ne l'a pas atteinte. Mais les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont généralement devancé les Juifs dans la justice de la foi. Pour figurer cela, Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, n'a connu la naissance du Christ que le dernier. Les mages et les bergers l'ont devancé, alors qu'il n'attendait pas la naissance du Christ avec autant d'ardeur. Pour comprendre l'importance de la révélation qui parvient aux gentils, il nous faut nous représenter dans quelles épaisses ténèbres et quelle misère morale vivaient ces peuples. S'ils avaient eu quelques connaissances de Dieu, ils l'avaient presque aussitôt corrompu et détourné vers ce nombre prodigieux d'idoles dont ils remplirent la terre. Ils étaient tombés comme par degrés dans les idolâtries les plus honteuses. De l'adoration du soleil et des astres, ils avaient passé à l'adoration de l'image de l'homme, puis à l'adoration des bêtes et à leurs figures. De là, dans l'adoration des choses inanimées et insensibles. Et de là encore, dans l'adoration des maladies du corps et enfin dans les vices mêmes de l'âme. À cette corruption de l'âme, de l'intelligence, s'adjoignait une corruption non moins profonde du cœur. Partout régnait la loi du plus fort et malheur aux faibles, ve victis, malheur aux vaincus, selon le mot de Brennus au Capitole, malheur aux pauvres, malheur aux malades, malheur à l'esclave, à la veuve, malheur à l'orphelin. C'est cette vocation des gentils à la foi de Jésus-Christ que l'Église solennise cette grande fête. C'est là ce grand mystère que saint Paul dit n'avoir point été découvert aux enfants des hommes, non seulement aux prophètes, mais seulement aux prophètes et aux apôtres. Les mages appelés à la crèche, reçus par l'enfant Dieu, avec leurs présents et leurs adorations, sont des gages certains que les gentils entreront dans cet héritage et auront part à ses promesses. Ces mages vont offrir à Jésus-Christ, aujourd'hui, les prémices de la foi de toutes les nations. C'est en leur nom qu'ils vont l'adorer. Stella Duce, une étoile les conduisant. Notre Seigneur appelle ces prémices des nations à la foi d'une manière à leur en faire connaître toute la grandeur, se servant du ciel comme d'un évangéliste à leur égard, selon l'expression de saint Léon. Cielo evangelizzante, le ciel évangélisant. Comme il était nécessaire que la divinité de cet enfant fût révélée aux hommes, car leur salut dépendait de cette révélation, Dieu emploie un moyen extraordinaire dans ce but. Une nouvelle étoile est formée dans le ciel. Que les pensées de Dieu sont profondes, que sa conduite est adorable, s'écrit saint Maxime. Afin que la perfidie des hommes ne pût attaquer le divin enfantement d'une vierge, Dieu en a voulu donner, dans la formation du nouvel astre, une preuve si éclatante que ni la gentilité ne put le rejeter, ni la judéité ne put le cacher. Clarissimum signum, quod nec gentilitas refutare posset, nec judea celare. Mais il est temps de passer à la deuxième partie de notre diptyque. Concede propitius, ut qui iam te ex fide coniovimus, usque ad contemplandam speciem tue cessitudinis perducamur. Faites dans votre bonté que vous ayant connu par la foi, nous arrivions à la contemplation de l'éclat de votre gloire. Quiam te ex fide coniovimus, nous qui vous ayant connu par la foi. L'oraison passe des mages à nous, nous qui connaissons déjà, iam, Dieu par le grand don de la foi. Perducamur, que nous soyons conduits, c'est la grâce que nous demandons, usque ad contemplandam speciem tue cessitudinis, jusqu'à la contemplation de l'éclat de la splendeur de votre grandeur, de votre gloire. Le but de notre vie est d'aller contempler Dieu dans la vie intime de la très sainte Trinité et ainsi l'aimer de tout notre cœur tout en étant aimé par lui dans la clarté de la vision. C'est ça le but de notre vie. Mais cette contemplation de Dieu doit commencer dès ici-bas, dans l'obscurité de la foi. Cette contemplation dans le clair-obscur de la foi et même dans la voie normale de la sainteté. Plus on aime Dieu, plus on veut vivre de lui, dépendre de lui, plus on cherche à le connaître, à passer du temps avec lui. Afin de parvenir à une vraie vie contemplative, revenons sur le premier volet de notre diptyque, de notre oraison, qui nous invite à nous mettre à l'école des mages. Les mages avaient une vie d'études, notamment sur les choses de Dieu. Nous ne parviendrons à la contemplation de Dieu autrement. Notre intelligence doit être nourrie de lectures spirituelles, de l'étude du mystère de Dieu. Les mages scrutaient aussi les secrets du ciel, la nuit pendant de longs moments. C'est ainsi qu'ils virent cette étoile mystérieuse qui les conduisit à notre Seigneur. Il nous faut, nous aussi, savoir faire la nuit en nous, se couper des bruits du monde, pour scruter la volonté de Dieu, être attentif à la voix de l'Esprit-Saint qui parle tout bas à notre cœur, et puis aussi savoir donner du temps à la prière, bien dire son chapelet notamment, consacrer chaque matin un petit moment pour la méditation, à l'aide d'un livre, de son missel. Mais les mages firent plus. Ils furent véritablement généreux et quittèrent leur pays, malgré une longue route, les difficultés et les fatigues d'un long voyage. Nous ne goûterons les joies de la contemplation qu'à la condition de couper avec les attaches inutiles qui rivent notre cœur à la terre, sans couper et aussi couper avec les mauvaises habitudes de péché, de tiédeur. Il faut se mettre en route. Il faut quitter son pays de mauvaises habitudes. L'enfant Dieu nous appelle, nous aussi, à la crèche pour que nous venions l'y adorer. Soyons donc bien généreux pour donner du temps à la lecture, à la prière, pour passer du temps avec lui. Et que la Vierge Marie nous fasse, elle aussi, désirer cette intimité avec son Fils dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi.